Chapitre 32. Sur ordre des autorités fédérales, la déségrégation des écoles publiques de Boston prend effet le jeudi matin 12 septembre 1974. La police escorte les bus transportant les élèves noirs au lycée de South Boston. Les policiers portent des équipements anti-émeutes. Tandis que les bus approchent de l'établissement, plusieurs centaines de manifestants blancs, adultes et enfants, bordent les rues. Le slogan « Pas de nègres chez nous » laisse place à « Aux chiottes les nègres » et « N'y comptez pas, on ne cédera pas ». Plusieurs manifestants brandissent des images représentant des singes. L'un d'eux agite un nœud coulant. Les briques proviennent d'un chantier de construction de West Broadway. D'autres lancent des pierres. Mais ce sont les briques qui font le plus de bruit et le plus de dégâts quand elles atteignent les vitres des bus. Les enfants à l'intérieur s'aperçoivent que c'est sous les sièges qu'ils sont le plus en sécurité pendant le caillassage. Et la seule blessure signalée concerne une adolescente qui reçoit un éclat de verre dans l'œil. Elle nécessite des soins médicaux, mais ne perdra pas son œil. Une fois à l'intérieur de South Boston High, les élèves noirs se retrouvent dans une situation qu'ils ont toujours connue dans leurs propres écoles, mais à laquelle ils ne s'attendaient pas ici. Il n'y a pas d'enfants blancs. En ce jour de rentrée scolaire, pas un seul élève blanc ne se présente au lycée de South Boston. Lorsque le bruit se répand parmi les manifestants, leur slogan se change en « On a gagné ! On a gagné !» Un peu plus tôt, vers 4 heures du matin, le corps de Mary Pat Fennessy est évacué de la place d'armes de Fort Independence à Castle Island pour être transporté au service de médecine légale de Suffolk County. Bobby et Vincent, avec leur escouade d'inspecteurs et de flics en uniforme réunis à la hâte, arrivent à Fort Independence environ 5 minutes après la mort de Mary Pat et trouvent Marty Butler et ses hommes en train de ramasser leurs douilles et de se préparer à partir. Ils n'opposent aucune résistance. Les armes qu'ils ont utilisées sont légalement enregistrées. Mary Pat leur a tiré dessus après avoir assassiné Frank Toomey. Brian Shea a été tué par ce que Marty appelle un tir ami. Bobby procède à leur arrestation et confisque les armes, ainsi que le trépied sur lequel Marty a fixé son fusil, mais Bobby ne doute pas que l'examen de la scène de crime révélera que les événements se sont déroulés exactement comme Marty les rapporte. Son attitude est bien trop suffisante pour qu'il en soit autrement. Bobby pourrait, oui, pourrait, porter l'affaire devant un juge, ne serait-ce qu'en raison du fait que Brian Shea est mort parce que 3 citoyens ont voulu se faire justice eux-mêmes. Mais les chances de voir cette affaire arriver devant un jury sont à peu près aussi bonnes que celles de voir Brian Shea retrouver son visage. Le légiste extrait 5 balles du corps de Mary Pat. Celle qui l'a tué est une balle de 7,62 mm qui l'a touchée en plein cœur. Mais Drew Curran assure à Bobby qu'une autre balle du même calibre, qui avait pénétré sous l'aisselle droite, l'aurait fait mourir de toute façon dans les 10 minutes suivantes. « Il fallait que ce soit une balle en plein cœur », dit Bobby à Carmen quelques jours plus tard. « Si ça avait été à un autre endroit, sûr qu'elle se serait relevée. » Le lendemain de la mort de Mary Pat, Bobby reçoit un appel de Calliope Williamson. Ils échangent quelques informations, puis Bobby s'excuse de ne pas avoir pu revenir chez eux après l'enterrement d'Oggy.
« Pas de problème, »
dit-elle.
« Vous êtes quelqu'un de bien. »«
Vraiment ?» s'interroge Bobby.
« C'est vrai qu'elle vous a aidé à arrêter les jeunes qui ont tué mon fils ?»
demande Calliope.
« Madame Fennessy ?»«
Oui. »
D'où tenez-vous ça ?
C'est au travail. Toutes celles qui étaient son amie l'appellent la moucharde. Elles disent qu'elle a trahi les siens.
Il paraît que vous avez eu des mots avec elle, dit Bobby.
C'est vrai. Et je ne m'excuserai pour aucun d'eux.
Je ne vous le demande pas. Quel qu'il soit, je suis sûr qu'elle les méritait.
Mais elle vous a aussi aidé à arrêter ceux qui ont tué mon fils.
Elle a fait beaucoup plus que ça, répond Bobby.
Je ne comprends pas.
L'homme qui porte la plus grande responsabilité de ce qui est arrivé à votre fils ne pourra plus jamais recommencer.
Grâce à elle ?
Oui. Je ne dis pas que son intention était d'obtenir justice pour Oogie. Je ne pense pas que c'était ça. Mais c'est tout de même ce qu'elle a fait. Silence tandis qu'elle traite cette information.
Vous pensez aller à son enterrement ?
Demande Calliope Williamson. Ça dépend de quand ça aura lieu. Pas si je travaille. Dans le cas contraire, j'irai. Un autre long silence, puis...
Je vous y verrai peut-être,
dit-elle. Elle raccroche. Big Peg McAuliffe passe les jours suivants la mort de sa sœur à localiser les membres de la famille en vue de l'enterrement. Donnie, qui vit à Fall River, un peu plus au sud, dit qu'il sera là et ajoute qu'il a des infos sur Bill, qui n'est plus au Nouveau-Mexique et qui pourrait bien être à Hartford. Big Peg parvient à joindre quelques cousins et une tante qui répondent qu'ils essaieront de venir. Elle se tourmente de ne pas pouvoir se rappeler les derniers mots qu'elle a échangés avec sa sœur. Elle sait quand elle l'a vue pour la dernière fois et elle sait de quoi elles ont parlé. De Jules qui avait disparu. Elle sait qu'elle l'a raccompagné à la porte, mais impossible de se souvenir de leur conversation à ce moment-là. Et ça l'énerve au plus haut point. On devrait toujours être capable de se rappeler les derniers mots qu'on a dit à quelqu'un. Il y a des gens dans Commonwealth qui la regardent d'une drôle de façon. Comme si cette espèce de virus que sa sœur avait attrapé dans les dernières semaines de sa vie pouvait contaminer Big Peg également. Ça met Peg en pétard, ce que Mary Pat a fait à la réputation de la famille. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps peut-être, pour que leur nom retrouve son honneur. Quand Donnie rappelle, elle lui confie « Moi je dis, ouais, d'accord, ce qu'ils ont fait à Jules, c'est dur. Mais bon, elle a joué avec le feu, et elle s'est brûlée. »
« C'était une gamine, »
répond Donnie. Peg est presque touchée, mais elle écarte vite cette sensation.
Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Dit-elle.
Je sais,
répond Donnie.
On n'y peut rien.
C'est comme ça et pas autrement.
Je te dirai pas le contraire.
Et on sait tous comment elle pouvait être, Mary Pat.
Donnie ricane.
Cette expression qu'elle avait dans les yeux, pas moyen de la raisonner.
Impossible.
Bon. Bill a dit qu'il viendrait.
Ah ouais ?
Peg allume une cigarette, surprise du plaisir qu'elle éprouve en apprenant qu'elle va revoir deux de ses frères après toutes ces années.
Ça va être comme une réunion de famille.
Ouais.
Ouais.
Bon. Bah, très bien,
dit Donnie pour en finir.
Bah, très bien,
acquiesce Big Peg. Il raccroche. Big Peg s'assied près de sa fenêtre un moment. Elle fume sa cigarette et regarde la cité. Elle aperçoit un endroit d'allée où Mary Pat et elle avaient l'habitude de jouer aux osselets ou à la marelle ou à la corde à sauter quand elles étaient gosses. Elles n'avaient jamais été particulièrement proches, mais elles avaient eu quelques bons moments. Elle les revoit, ces deux petites filles, Mary Pat et elle, là, dehors, et, juste l'espace d'une seconde, elle entend leur rire et leur bavardage se répercuter sur les murs de la cité. Un élancement atroce lui étreint le torse, le cœur, les poumons, l'estomac. Une bombe de désolation qui explose et les ondes de choc se propagent et finissent par atteindre son cerveau. Comment a-t-elle perdu sa sœur ? Où est l'âme de Mary Pat à présent ? Comment les choses ont-elles pu aller aussi loin ? Elle fixe son regard sur un pigeon de l'autre côté de l'allée. Il picore sur le rebord d'une fenêtre. Elle n'a aucune idée de ce qu'il peut bien être en train de picorer. Du chewing-gum ? La merde d'un autre pigeon ? Mais il garde la tête baissée. Il fait son boulot. L'élancement dans la poitrine passe. Les ondes de choc se dissipent. Si les choses ont pu aller aussi loin, Big Peg se rappelle, c'est parce que Mary Pat avait peut-être de bonnes intentions, mais en tant que mère, faut bien le reconnaître, elle n'était pas terrible. C'était ses gosses qui menaient la danse à la maison, parce que Mary Pat les gâtait trop. Aussi simple que ça. Elle les laissait lui répondre, elle les battait rarement, elle leur donnait jusqu'à son dernier cent s'ils le lui demandaient. Quand vous gâtez les gens, ils ne vous remercient pas. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils finissent par penser que tout leur est dû, Ils se mettent à exiger des choses qu'ils n'ont aucun droit d'exiger. Comme les gens de couleur avec l'école. Comme Noël avec la drogue. Comme Jules avec le mari d'une autre femme. Peg ne va tout de même pas s'en vouloir pour les défauts de Mary Pat. Elle ne va tout de même pas culpabiliser parce qu'elle est restée dans le droit chemin comme une bonne citoyenne, tandis que Mary Pat s'en est écartée pour s'égarer dans les hautes herbes et les marécages. Et à présent, Peg se souvient enfin de la toute dernière chose qu'elle a dite à sa sœur. C'était au sujet des enfants, et elle a l'impression que c'était une sorte de prophétie quand on y repense. Tu ne peux pas les laisser contrôler ta vie. La veille du jour où Mary Pat est portée en terre, Brendan, le fils de Bobby, se retrouve à l'hôpital avec une jambe cassée en 3 endroits. C'est arrivé alors qu'il faisait du skate avec ses amis dans une rue en pente raide, près de la maison de sa mère. En voulant éviter un nid de poule, il a heurté une buick et il a volé par-dessus le capot. Fracture du talon, de la cheville et du péroné gauche. Toutes des fractures nettes, heureusement. L'opération se déroule sans problème. Bobby et Shannon sont assis dans sa chambre à l'hôpital Kearney. Le plâtre paraît plus gros que l'enfant lui-même. Un énorme appendice blanc qui part de son genou et dont l'autre extrémité est suspendue à un U métallique à l'envers au-dessus du lit. Brendan est en forme. Un peu dans les vapes à cause des médicaments et il n'arrête pas de leur adresser ce sourire perplexe du genre « Comment j'ai fait pour atterrir ici ?» Ses tantes et son oncle Tim lui rendent tous visite, chargés de jouets, de cartes et de livres. Lui écrivent des messages idiots sur son plâtre. Ils font tous tant de bruit que les infirmières doivent sans cesse leur demander de se taire. Elles finissent par les chasser et ne restent là que Shannon, Bobby et Brendan. Brendan ronfle doucement et Shannon lance un regard vers Bobby par-dessus l'enfant et dit « Notre garçon ». Et quelque chose se brise dans sa voix parce que, pour la première fois, quelque chose est brisé dans le corps de Brendan. Il a rarement été malade, il n'a jamais eu de point de suture ni de fracture, même pas la moindre entorse. Bobby hoche la tête, gardant une expression calme et réconfortante. Shannon paraît épuisée. C'est elle qui a amené Brendan à l'hôpital. Elle y est arrivée 2 heures avant que Bobby ne la rejoigne. Il lui suggère de rentrer chez elle, d'aller se reposer, prendre une douche, au moins faire un brin de toilette. Elle hésite, mais comme Brendan continue à dormir et que la nuit s'avance, elle ramasse ses affaires, embrasse son fils sur le front et fait un petit geste des doigts en direction de Bobby, les yeux humides et bouleversés. Quand elle s'en va, le sourire que Bobby a gardé plaqué sur le visage depuis son arrivée, son sourire style pom-pom girl, son sourire « papa contrôle la situation », son sourire « tout va finir par s'arranger », s'évanouit. Il imagine la jambe noire et violacée sous ce plâtre, enflée et enlaidie par des rangées de sutures sombres et tuméfiées. La chair de son fils tranchée comme un jambon à Noël, pour que les chirurgiens puissent introduire leurs instruments dans son corps et recoller des os qui se sont cassés comme des graissins. Et si Bobby est reconnaissant, bon Dieu, tellement reconnaissant, que la médecine moderne soit là pour parer à ce genre d'éventualité, il n'en éprouve pas moins une impression de profanation. Cela aurait pu être bien pire. Brendan aurait pu voltiger au-dessus de cette buick et retomber sur la tête, sur le cou, sur le bas de sa colonne vertébrale. Cela peut toujours être pire. C'était comme un mantra dans la famille de Bobby pendant toute son enfance, et il abonde dans ce sens. Mais il doit aussi affronter ce qu'il a compris intellectuellement à l'instant où il a pris son fils dans ses bras pour la première fois à la maternité de l'hôpital Saint-Margaret et qu'il n'autorise à pénétrer dans son cœur que maintenant. Non pas parce qu'il en a décidé ainsi, mais parce que ce plâtre ne lui laisse pas le choix. « Je ne peux pas te protéger. Je peux faire ce que je peux, t'enseigner tout ce que je sais. Mais si je ne suis pas là quand le monde sort ses griffes, et même si je suis là, rien ne garantit que je puisse l'en empêcher. Je peux t'aimer, je peux t'aider, mais je ne peux pas te mettre à l'abri de tout. Et ça me fiche une trouille bleue, chaque jour, chaque instant, à chaque respiration. Papa ? » Son fils a les yeux fixés sur lui. Le regard de Bobby passe du plâtre au visage ensommeillé de son fils. «
Ouais, mon gars.
C'est juste la jambe.
Je sais.
Alors pourquoi tu pleures?
Une allergie, peut-être.
Tu n'as pas d'allergie?
Ouais, bon, ça va, hein.
Bonjour, la maturité.
Bobby sourit mais ne dit rien. Au bout d'un moment, il approche sa chaise du lit et prend la main de son fils dans la sienne. Il la porte à ses lèvres, embrasse les phalanges. L'enterrement de Mary Patricia Fennessy a lieu à 9h, le matin du 17 septembre. L'assistance est clairsemée. Calliope Williamson se tient dans le fond. Elle remarque une version imposante et grassouillette de Mary Pat au premier rang, avec un groupe d'enfants turbulents qui ont tous l'air d'avoir besoin d'un bon bain. Tout près, sur un autre banc, il y a deux hommes âgés aux cheveux rares dont les traits ressemblent à ceux de la grosse femme et de Mary Pat. La famille, donc. Quelques religieuses de Meadow Lane Manor sont présentes, mais aucune collègue ne s'est déplacée. Une douzaine d'autres personnes se trouvent éparpillées dans une église qui pourrait en contenir facilement un millier. L'inspecteur Bobby Coyne n'est pas là. Elle sait qu'il serait venu s'il avait pu. Pour ça, il est comme Reginald, un homme de parole. De l'autre côté de l'allée, dans la rangée du fond, juste en face de celle de Calliope, se tient un bel homme, une sorte de géant aux yeux doux. Il porte un costume mal ajusté et une cravate dont le nœud est fripé et trop serré. Il garde un mouchoir à la main et pleure silencieusement, mais souvent. Elle l'a déjà vu auparavant. Il venait parfois chercher Mary Pat après le travail. C'est son mari. Elle sait que son nom est Kenny, bien qu'il n'ait jamais formellement fait connaissance et que tout le monde l'appelle Ken Fenn. Après le service, elle se présente à lui sur les marches de l'église et lui dit qu'elle compatit à sa perte. Non seulement à la perte de sa femme, mais aussi celle de sa belle-fille. Il lui dit « Vous êtes Dreamy ?» Elle secoue la tête.
« Personne ne m'appelle ainsi. »
« Je croyais... »
« Les femmes au travail. À peu près la seule chose dont elles se souviennent à mon sujet, c'est que je leur ai raconté que mon père m'appelait Dreamy quand j'étais petite. Je n'ai jamais dit qu'on avait utilisé ce nom depuis. Mais elles ont décidé de ne pas entendre cette partie-là. Elles m'ont donné ce surnom pour que j'ai l'impression d'être leur petite protégée, j'imagine. »
Il soupire. « Bien. Je suis vraiment désolée pour votre perte à vous. » Elle sent une palpitation dans ses yeux. C'est comme si quelqu'un venait de lui enfoncer une tige de métal dans le cœur, sur le côté. Mais elle ne répond rien. Puis elle dit
« On dirait qu'il y a pas mal de pertes en ce moment. »
Les autres personnes présentes sortent de l'église. Pas une ne s'arrête pour présenter ses condoléances à Ken Fenn. Elle les contourne tous les deux comme s'ils avaient la lèpre. Ils restent là, sur les marches, sans se parler, longtemps après que tout le monde est parti. Et c'est étrangement confortable.
Un verre, ça vous dirait, Calliope?
Putain, c'est pas de refus.
Ils se rendent au bar le plus proche, passant devant des pancartes et des graffitis que Calliope refuse de regarder. Elle n'a pas besoin de voir les mots pour sentir leur laideur. La laideur est partout ici, à présent. Elle flotte dans l'air. Elle est pendue au réverbère. Bon sang. Elle peut même en sentir le goût, comme une boulette de papier d'alu coincée entre deux dents. Le bar, lui dit Ken Fenn, reste ouvert 18 heures par jour pour servir les ouvriers qui font les 3-8 à la centrale électrique. Il n'est que 10 heures du matin, mais la salle est déjà bien remplie. Et il y a deux barmen derrière le comptoir, plus une serveuse qui s'occupe de la salle. Ils sont assis depuis une dizaine de minutes. Absolument personne ne tient compte de leur présence. Un géant et une femme noire dans un bar de Southsea. Ils pourraient tout aussi bien être invisibles. La serveuse passe près d'eux 4 fois. Les deux barmen les ont vus, mais personne ne prend leur commande. Au nouveau passage de la serveuse, Ken Fenn lève encore une fois une main hésitante dans sa direction et croise son regard. Elle passe en trombe à côté de lui. Il se retourne vers Calliope, lui adresse un sourire fatigué, haussant les sourcils.
Heureusement que j'ai apporté ce qu'il faut.
Il enfonce la main dans la poche de sa veste et en retire une flasque. Calliope lui rend son sourire fatigué.
Moi, pareil.
Elle plonge la main dans son sac et en sort sa propre flasque, un cadeau de Reginald pour leur 9e, ou était-ce le 10e, anniversaire de mariage. Ils lèvent leur flasque au-dessus de la table.
« À quoi buvons-nous ? »
« À nos morts, » répond Calliope. « Bien sûr. »
« Bien sûr. »
Ils trinquent et boivent une gorgée. « Une autre, » dit Ken Fenn.
« Oh, je vais en prendre bien plus que ça. »
Il a un petit rire.
« Allez, un autre toast. »
Elle se penche de nouveau au-dessus de la table.
« À nos vivants, »
dit Ken Fenn.
« À nos vivants, »
acquiesce Calliope. Ils boivent une autre gorgée. Après sa restitution par l'Institut médico-légal de Suffolk County, la dépouille de Julia, Jules, Fennessy, est enterrée au cimetière de Forest Hills, dans le quartier de Jamaica Plain. Conformément aux dernières volontés de sa mère, consignées dans son testament, le cercueil est placé dans un mausolée au sommet d'une petite butte dans le coin sud. Des fonds sont prélevés sur la succession de Mary Pat Fennessy chaque mois pour payer les fleurs qui doivent être placées autour de la porte du mausolée. Des fonds sont également prélevés afin de satisfaire à une étrange stipulation. Chaque jour de la semaine, l'assistant du sacristain, Winslow Jacobs, est chargé de passer une demi-heure à l'intérieur du mausolée avec une radio transistor réglée sur WJIB, la station locale de musique classique. Winslow Jacobs a déjà effectué des boulots bizarres tout au long de sa vie sur Terre, mais celui-ci est probablement le plus bizarre. Mais il ne s'en plaint pas. Le sacristain, Gabriel Harrison, lui verse $15 supplémentaires chaque semaine pour ce travail, ce qui signifie que Gabriel doit se faire dans les $30. Et en vérité, il n'a pas fallu un mois à Winslow pour se mettre à aimer cette pause dans sa journée. En plus, il prend goût à la musique. Avec le temps, il a aussi pris l'habitude de parler à Julia Fennessy presque tous les après-midi. Il lui parle de son fils, qui travaille pour une société qui refait le revêtement des routes en Californie, et de ses deux filles, qui sont mères de famille, pas très loin de l'endroit où elles sont nées. Ainsi que des plats que prépare sa femme, qui ne lui vaudront pas une médaille, mais qui ont le goût d'une cuisine familiale. Et c'est bien assez bon pour lui. Il lui parle de son père, qui ne l'a jamais aimé, il en est sûr, et de sa mère, qu'il l'a aimé deux fois plus pour compenser. Il raconte à Julia Fennessy presque tout ce dont il peut se souvenir de sa vie, avec ses hauts et ses bas, tous ses rêves brisés et ses joies inespérées, ses menues tragédies et ses petits miracles.